Soyez les bienvenus avec Lila Kamouboulani.
Bonjour à tous.
Avec Daniel Morin.
Bonjour Daniel.
Le vrai Albert Aldo.
Bonjour.
Il y a Tanguy Pastureau qui sera là également. Nous aurons l'humeur. Ah oui, on a un live aussi. On a un live. Vous pouvez déjà l'applaudir. C'est Steven Wilson qui sera là.
Non.
Tout à l'heure.
Bravo Steven.
Demain, Weasel sera également là.
Bonjour, Weasel.
Nos invités, Marianne Chazelle et Patrick.
Bravo.
Merci de venir même un jour off, parce qu'il faut quand même souligner que les comédiens au théâtre travaillent du mardi au dimanche inclus. Le seul jour où ils peuvent être tranquilles à la maison et ne rien faire, c'est le lundi. Et bing, Marianne Chazelle,
voilà.
Patrick Chenet.
Voilà le résultat.
On leur file du boulot. Merci de venir. Tant qu'il y a de l'amour, un délire qui se passe à la Michaudière. Je sais pas, parce que à résumer, ça me paraît totalement impossible. Vous dites quoi, vous, en promo, que c'est l'histoire d'un couple qui essaye de...
On sait pas encore, c'est la première promo qu'on...
C'est vrai. Ah, voilà, vous êtes non, mais c'est bien, raconte-toi qui a vu la pièce.
Ça fait 30 ans à peu près, hein, en tout cas, que vous vivez ensemble, que vous êtes mari et femme, et qu'on comprend dès le début qu'il...
Une certaine lassitude.
Qu'il y a même une double vie de la part du mari.
Il y a un tarif jour et un tarif nuit, comme pour les taxis.
Moi je pensais à l'électricité, tu vois. Je sais pas si c'est un tarif, mais en tout cas, vous avez une liaison la journée.
Oui, c'est-à-dire que le début de la pièce est relativement classique. Parce que c'est un type qui a une maîtresse et une femme, femme légitime.
Oui, c'est classique, c'est votre vie.
Rien de nouveau sous le soleil.
La vie.
Sauf qu'il y a un moment, pour là où la pièce prend toute son allure, c'est que sa femme a un amant, chose nouvelle.
Femme
a un amant. Donc on découvre qu'il y a un amant.
Et chose qui n'est pas encore très, voilà, très originale, sauf que les moyens...
Bon, vas-y, alors, vas-y.
Non, il supporte pas que je coupe la parole. Vas-y, mon Patrick, vas-y.
Non, simplement, ils veulent se débarrasser du mari gênant et que ça va être un... Ils vont essayer de l'assassiner.
Alors, donnons un nom.
C'est une pièce burlesque.
Donnons le nom des comédiens au fur et à mesure. Vous, Patrick Chenet, votre maîtresse est Valérie Beg. Et on ne peut que vous encourager dans cette voie, évidemment, quand on voit Valérie. Vous, Marianne Chazelle, votre amant.
On encourage l'adultère.
Et Laurent Gamelon.
Mais je te sens un petit peu sceptique.
On ne peut que se méfier, vu la carrure de Laurent Gamelon, quand celui-ci décide de mettre fin au jour, sauf qu'il est hypersensible, il est pharmacien en plus.
C'est-à-dire que c'est bien pratique pour arriver à mes fins.
Quitte
à se débarrasser de son mari, autant être épaulé. Et là, j'ai trouvé, le support partenaire idéal.
Le petit souci, c'est que je suis insensible à n'importe quel médicament, quel qu'il soit, notamment des médicaments aussi qui aident dans certaines situations intimes.
Le Viagra, pour appeler un chat un chat.
Voilà, et ça ne marche pas. Rien ne marche sur lui. Donc c'est un des éléments burlesques de la pièce.
Donc on va être obligé de s'acharner.
On est dans une farce.
C'est extrêmement drôle.
C'est extrêmement
drôle. C'est barré,
puis,
totalement
alors,
barré.
Tous les quatre sur scène, vous êtes d'une énergie folle, parce que toutes ces situations qui prêtent à chaque fois au quiproquo, au burlesque, il faut une intensité incroyable, il faut un rythme aussi un peu fou. Il y a des scènes où moi je vous vois, Patrick Chenet, je me dis combien de temps va-t-il tenir en train de feindre.
Enfin, ça c'est déjà dans la vie tous les jours. On voit, on se dit combien de temps va-t-il tenir. Mais c'est vrai que sur scène, on se pose
des questions. Combien de temps les autres vont-ils tenir?
Tu prends des risques.
C'est vous le dur à cuire de l'histoire, vous allez tous finir par les avoir à l'usure, en fait. C'est un peu ça, votre personnage. Et c'est vraiment très très drôle. Et puis, on vous voit, il y a une sorte de gourmandise à vous voir jouer sur scène. On était là pour la première.
Ouais.
Qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là, ce premier soir-là, tous les deux?
Alors vas-y, commence chérie, vas-y.
Oui, j'y vais maintenant, tu me laisses la parole.
Le couple.
Un vrai couple.
Ce qu'on a ressenti, c'était très important pour nous, parce que c'est la première fois qu'on jouait la pièce devant du vrai public, des gens qui étaient venus, qui avaient payé, à part vous,
des vrais gens.
Qui avaient payé leur place. Et donc, il y avait
nous,
une réaction.
On nous paye pour venir, c'est ça la différence.
Tu as eu ta petite enveloppe, d'ailleurs.
J'ai tout, je vous remercie. C'est pour ça que vous êtes là.
Bien payé.
Et on a été cueillis, parce qu'on ne sait jamais là où le public va rire. Nous, il y a des choses qui nous font poiler en jouant, en répétant, c'est pas forcément ce qui amuse le spectateur.
C'est la règle absolue pour toutes les comédies. C'est-à-dire que comme on a la tête dans le guidon, il y a des choses qui nous font, il faut se méfier.
Troisième degré.
Parce que comme ça fait rire les assistants, les metteurs en scène, les producteurs qui sont là, on a tendance peut-être à en rajouter dans cette direction-là. Mais le public normal qui paye sa place, à qui on raconte une histoire qui est tout neuf,
à sa réaction fraîche, voilà.
Il rit à des choses totalement différentes.
Est-ce que là vous avez été surpris justement par
toujours, mais ça
le rythme,
et puis ce qui nous a moi, ce qui nous a surpris, c'est qu'ils suivent vraiment l'histoire, quoi. Ouais. Et que les rebondissements, ça les amuse, et qu'ils ont envie de voir la suite, et ils ont envie de, ils sont sidérés de voir la résistance du mari, et ils sont sidérés de voir la lâcheté du pharmacien, l'opiniâtreté de la femme, et on les emmène dans une folie complètement délirante.
Ils sont en état de sidération totale.
Voilà, on se dit, mais comment ose-t-il? Comment ose-t-il faire ça?
Le premier délire, en fait, c'est que les quatre, impétrants sont un peu tous d'accord de
les
la
situation. Les quatre quoi?
Impétrants, ceux qui sont concernés par
service public.
Un nouveau mot par jour, il doit apprendre.
Monsieur Algou est très sensible à ça.
Je note. Impétrants.
Mais donc les quatre, que ce soit la maîtresse, que ce soit l'amant, sont parfaitement au courant qu'ils sont chacun maîtresse, amant et ainsi de suite, et ils vivent bien leur situation. Ils voudraient même que ça dure comme ça.
Oui, c'est moi en fait qui veux pas. Parce qu'en fait, moi je m'en fous un peu que mon mari me trompe. J'ai pris l'habitude, ça fait 20 ans, il ramène toujours des gamines et tout, bon, c'est son problème. Par contre, moi, je veux être heureuse avec mon pharmacien que j'aime, mais il ne veut pas, parce qu'il est très égoïste et lui, il aime sa femme à la
maison
le soir.
J'aime la fidélité le soir. Voilà. Et l'après-midi, il est chez sa maîtresse, c'est le soir, il est à la maison avec sa femme, à regarder la télé, il aime bien.
Voilà, voilà. Avec son plateau au repas, son petit déj le matin, tranquille.
Les macarons,
voilà.
Regardez les Sopranos le soir.
Vous voyez comme c'est rigolo.
Alors, Sopranos, ça peut les mettre dans un état particulier. Parce qu'il y a des scènes très, très chaudes aussi.
Il y a
de beaucoup de cul, excusez-moi, l'expression, c'est un petit peu hot.
Non, c'est vrai.
On fait faire des choses abominables.
Vous
j'ai encore jamais fait dans
aucune pièce. C'est
gênant. Ah non, c'est trop drôle. Ah non, ça m'amuse énormément.
Non, parce que vous vous retrouvez souvent les quatre fers en l'air.
Absolument, dans des positions un petit peu explicites. Vous voyez, mais comme quoi la sexualité n'a pas d'âge.
Et des tenues.
Mais ça a l'air de vous plaire en plus. J'espère cette fois que vous avez bien compris Jean-Dominique Besnéard, pourquoi Marianne Chazelle et Patrick Chesnais sont nos invités.
Salut Nagui, salut les choudoués. D'abord, je tiens à préciser à Marianne Chazelle, joubi-joubi-jou Marianne, et à Patrick Chesnais, bonjour Patrick, que nonobstant certaines infections proches de celles de Dominique Besnéard, je ne suis pas Dominique, mais Jean-Dominique, son cousin. J'officie en tant qu'orthophoniste des stars du cinéma, de la chanson et du one-man show. Coach vocal, si vous préférez. Alors maintenant, au sujet de votre question, cher Nagui, il y a au moins une chose dont je suis sûr, c'est que vous êtes un sacré faucheton.
Qu'est-ce que j'ai encore fait?
Il y a quelques instants, dans l'open space où bossent vos assistants, vous avez fait une entrée fracassante. Furax, le Nagui. Je resitue la scène. Au pied JNB. Alors JNB, c'est Jean-Baptiste Bussière,
notre rédacteur.
Voilà. Oui. Alors il habite un triplex dans le Marais. Hein. Il a de la caillasse.
Il est moche. C'est sa femme qui paye.
Il est moche, mais il est riche. On pourrait peut-être mettre sa photo sur le site. Pendant qu'il parle, qu'est-ce qu'il fait l'équipe technique? Bien. Alors bref, je poursuis mon récit. Qu'est-ce que j'apprends, dit Nagui? Une fois de plus, t'as invité la Chazelle et Patrick Chesnais. J'en ai ras la chéchette, toujours recevoir les mêmes. C'est lassant. Comment ça, Jean-Michelin? Je m'en fiche. Fallait inviter les deux autres comédiens, Laurent Gamelon et Valérie Bègue. Alors, à propos de Bègue, a poursuivi Nagui, ce serait sympa de faire venir l'orthophoniste les stars, Jean-Dominique Besnéard, pour tester la Chazelle et les Chesnais, voir s'ils prononcent bien. Sitôt dit, sitôt fait, me voici et me voilà avec mes tâches de diction. Alors, Marianne puis Patrick, vous allez répéter, tenez, après moi, les phrases qui suivent. Alors, comme on dit, ladies first, Marianne Chazelle, allez-y. Suis-je bien chez ce cher Serge? Allez-y.
Suis-je bien chez ce cher Serge?
Voilà, vous renouez avec une tradition, vous avez bien pratiqué ça autrefois, hein, Zézette.
Zézette avec le crayon dans la bouche.
Encore une fois, suis-je bien?
Suis-je bien chez ce cher Serge?
C'est pas si mal. Maintenant, Patrick Chesnais, à vous. 5 chiens chassent 6 chats.
5 chiens chassent 6 chats.
Plus vite.
5 chiens chassent 6 chats.
Encore.
5 chiens chassent 6 chats.
Voilà, la chicha. Et maintenant, tous les deux ensemble, mais alors très vite, pruneau cuit. Voilà.
Alors, malgré les apparences, j'ai quand même une médaille de diction au conservatoire.
Juste pour finir en vitesse, à Marianne Chazelle, de la part de mon excellent ami Albert Algou, je sais que c'est une tradition entre vous, c'est une sorte de complicité, hein. Oui. Vous vous offrez des livres. Donc, de sa part, voici L'imposteur de Javier Cercas aux éditions Babel. C'est sensationnel. C'est l'histoire d'une imposture. C'est sensationnel.
C'est pas un autre adjectif que sensationnel, cher Jean-Bézé?
Non. Alors, ça vient de
la... C'était bouillant.
Alors, Albert Algou, il a acheté une librairie, il faut saluer les libraires, L'art de la joie, rue Saint-Charles, dans le 15e. Voilà, il faut saluer les libraires.
Oui, saluons les libraires.
Bravo les libraires.
Alors, édition Babel,
Et belle, belle maison.
L'imposteur de Javier Cercas, ça j'ai bien dit. Voilà. C'est formidable. Merci. Je sais que Marianne, elle appréciera.
Merci, Jean-Dominique
Besnéard. C'est ce qu'il m'a dit, Albert.
Merci, Jean-Dominique Besnéard. Albert Algo, au théâtre de la Michaudière, donc. Au théâtre de la Michaudière.
La bande originale.
Ah oui, bah allons-y.
Ouais. Jingle, tout, quoi.
Sur France Inter.
Vous faites signe, hein, dès qu'il y en a plus que je crois. Donc, au théâtre de la Michaudière, Marianne Chazelle, Patrick Chenet, nos invités, en compagnie de Valérie Beg et Laurent Gamelon. La pièce est signée Bob Marté, mise en scène par Anne Bourgeois, que vous retrouvez à la mise en scène, parce que vous avez déjà travaillé ensemble.
Oui, on avait fait la pièce avec Michel Sardou qui s'appelait Représailles.
Et moi, ça fait 4 fois que je fais...
Et oui, mais dis sur ce ton-là, dis sur ce ton-là que ça a l'air. Il y a un bout du rouleau.
Dis ton reproche. Un petit reproche.
Pas du tout. Si on l'a fait, si je travaille avec elle 4 fois, c'est que.
C'est qu'il y a du plaisir. C'est qu'il y a un bon rendez-vous au passage. Justement, le travail de la mise en scène sur cette pièce, c'est une création. Hein. La pièce a été écrite et vous êtes les premiers à la jouer. C'est d'être aussi dans le rythme du boulevard, c'est-à-dire que les claquements de porte, pour reprendre une image à la Fedo, mais les entrées, les sorties, le tempo sur lequel c'est fait.
On est plus que dans la comédie traditionnelle du boulevard. On est dans la farce, dans le burlesque, dans la folie, dans justement l'éclatement des codes du boulevard, avec des codes du boulevard au départ qui sont donnés, qui sont là, qui sont assez classiques, et brusquement qui part en vrille, quoi.
Parce que les personnages ont quand même des travers de violence, d'énervement.
Oui, ça va beaucoup plus loin.
Voilà, ça va beaucoup plus loin. Il n'y a plus, à un moment donné, ça devient surréaliste. Il n'y a plus de logique, vraiment. Il y a simplement la nécessité de la situation qui fait que tout est bon.
Au moment où ça
tout
se passe,
bon.
Quoi.
Y a
alors,
pas
c'est
de...
très physique. Est-ce que musculairement, physiquement, c'est fatigant?
C'est-à-dire que Patrick est une boule de muscles.
Et une boule de nerf par moment.
Est extrêmement ferme, et c'est une boule de nerf.
Non, mais c'est du sport, vous savez, je m'entraîne. Hein, tous les
non, non,
aussi.
Mais je, franchement, c'est la première chose que l'on s'est dit aussi en sortant au-delà de l'amusement, du plaisir de la pièce. On vous l'a dit d'ailleurs dans les loges. Physiquement, ça doit être éprouvant parce que.
C'est-à-dire que je ne me souviens pas avoir été aussi en sueur après. Et c'est assez curieux parce que je ne suis pas très fatigué en sortant de scène. Je suis en sueur, j'ai perdu un litre d'eau ou deux. Non, tout va bien.
Et si deux heures après. Vous avez le coup de barre. Je dis, vous buvez beaucoup aussi pendant la pièce, que ce soit du poison, que ce soit de l'alcool.
Je bois peut-être, ça me permet d'éliminer.
Ah oui, vous buvez énormément.
Je bois du poison, je bois du whisky, je bois de la grenadine. Et je bois du Perrier.
Alors, À l'amande.
Ne dévoilez pas tout non plus, laissez le public découvrir. Est-ce que, comme souvent dans les comédies, tout est millimétré, c'est comme du papier de musique,
c'est,
un rythme.
C'est de la musique pour moi. Ouais. J'aime pas quand les gens disent c'est une mécanique. C'est pas vrai que c'est de la mécanique. La comédie, c'est de la musique.
C'est un tempo.
C'est une partition.
Voilà.
En fait.
Il y a un rythme. Il y a un rythme qui par moments s'accélère. Il y a des ruptures. Il y a des blanches. Il y a des croches. Mais c'est ça qu'il faut trouver. C'est ça qui fait qu'il y a certaines répliques qui brillent et qui sont drôles et auxquelles les gens réagissent quoi qu'il arrive dans la salle. Et que vous pouvez aussi bousiller parce que vous avez pas perdu le petit rythme, le petit temps qu'il faut. C'est vraiment ça qui habite ce genre d'écriture-là.
Puis j'imagine qu'il y a une musique différente entre les couples. Le couple
et entre les acteurs. Voilà, parce que le rythme de Patrick n'est pas le même rythme que le mien.
Ouais.
Et il faut arriver à ce que... C'est... Et des personnages aussi, bien sûr. Ils ne sont pas dans les mêmes situations.
Il faut permettre aussi le travail de la mise en scène consiste à permettre au public de venir jouer avec nous. Il ne faut pas fermer le sens. Il faut leur permettre, leur donner suffisamment d'espace pour qu'ils viennent nous raconter aussi l'histoire qu'on connaît, mais qu'on connaît
qui reçoit.
Oui, la façon dont ils le reçoivent est un peu différente souvent.
D'ailleurs, ça réagit dans la salle. On entend les gens aussi rire et se dire tiens, il ne va pas mourir. Parce que bon, je ne sais pas combien de tentatives d'assassinat.
je suis désespéré, ça ne marche jamais.
Et on entend, il va tenir. Voilà, il y a une sorte de commentaire derrière. Donc la place est là. Ouais. La place est faite pour le spectateur. Ça, c'est réjouissant de ce point de vue-là. On est un peu acteur aussi.
Oui, c'est ça. Et puis, Patrick Chenet ne va pas mourir tout de suite.
Non, on ne veut pas.
Vu le prix des places, j'espère qu'il ne va pas mourir tout de suite.
C'est l'un des héros. Théâtre de la Michaudière, Patrick Chenet, Marianne Chazelle, Laurent Gamelon et Valérie Beg. Tant qu'il y a de l'amour,
Valérie Beg est super. C'est ça, son premier rôle, je crois, au théâtre, sur les planches.
C'est la deuxième fois qu'elle
Elle change sa
Je l'ai vraiment trouvé super. Et en plus, elle n'a pas la même partition que vous à jouer parce que vous avez des scènes parfois un peu d'hystérie. Elle, son personnage, j'ai un peu moins dans cette folie et je trouve que...
Et dans l'amour et le sexe, elle.
Voilà.
Ouais,
mais elle a une vraie conviction. Elle a une vraie conviction, je trouve, dans sa façon de présenter son point de vue de jeune femme.
Absolument.
Par rapport à ces trois vieux ringards qui sont quand même tous un peu marqués par la vie. Elle, elle arrive avec une fraîcheur comme ça et elle y croit. Et elle croit à l'amour.
Ouais. Vous l'avez chaperonnée un tout petit peu dans le travail, dans la préparation, Marianne?
Oh, bah, c'est surtout Anne qui a fait la mise en scène de façon formidable. Mais bon, c'est vrai que moi, j'aime bien être près de mes jeunes partenaires.
Moi, j'ai un petit peu chaperonnée quand même.
Hein. Oui, le problème, c'est que Patrick la chaperonne un peu trop près. Et elle m'a fait comprendre que ça lui pesait un peu. Mais bon.
Et je profite de l'occasion pour le rappeler.
Voilà. Patrick, si tu peux te contrôler. Des changements de costume, notamment.
Laurent Gamelon.
Elle m'a dit qu'elle pouvait plus s'en passer.
Laurent Gamelon, qui est extrêmement drôle aussi. Enfin, tous les quatre, vous êtes parfaits. Vous êtes juste. Leïla, quand on vous a annoncé la venue.
Ça va être long,
les Javanais maintenant.
Heureusement, on est vendredi, bientôt le week-end, donc tout va bien. Donc, la venue de Marianne Chazelle et Patrick Chesnais. Vos oreilles aussi.
Oui, et quand je pense à vous, à Patrick Chesnais, je pense à ça.
Plein de cul de cette ville de merde. Comment est-ce qu'on peut vivre dans ce putain de merdier? Moi, je peux pas.
J'ai rencontré quelqu'un.
Vous croyez que la ville vous a spécialement réservé une voie privée pour rouler avec votre tank debout, avec vos initiales, TDC, gros du cul? Putain.
T'as l'impression de... complètement sans type, mais... je peux changer.
Charmant garçon, en 2000, vous réalisez votre premier film. Vous obtenez même pour ce long métrage le prix Alain Poiret du meilleur réalisateur. Vous avez réalisé.
Le meilleur jeune réalisateur. Du meilleur jeune. J'avais 52 ans, j'étais assez content.
Ben oui, c'est ça, c'est le festival des jeunes réalisateurs de Saint-Jean-de-Luz. Oui. Absolument. Vous donnez même un petit rôle à votre fille, Émilie, dans le film. Vous avez réalisé, Patrick Chesnais, trois films, deux longs métrages, un court métrage,
oui.
Bien agité, Soupil, et je me disais, vous n'avez pas reproduit.
Non, on m'a proposé beaucoup de choses parce que ça a été plutôt de façon globale bien accueilli.
Ah oui.
J'ai écrit un scénario avec Eric Assous et qui était très bien, très bon, vraiment une jolie. J'ai plus envie de le réaliser.
Ah
si
bon
on n'a plus envie de réaliser, vaut mieux faire autre chose, parce que c'est quand même du boulot, et c'est quand même un sacerdoce, et c'est une plongée dans quelque chose d'infini. Donc j'ai mis ça de côté pour plus tard, et puis le fait que je travaille beaucoup comme acteur, et voilà, par laisser aller, paresse, ou je ne sais pas quoi, ou manque de nécessité absolue pour faire un film, je me suis laissé embarquer par mon métier d'acteur, qui embarque très profondément et très, très loin, hein, souvent. Et voilà, j'ai pas trouvé le temps nécessaire, ni de la disponibilité, ni l'envie pour à nouveau réaliser. Mais ça me titille toujours un peu, pourquoi pas un jour. Hein.
Et Marianne, vous aussi, un court-métrage, vous avez réalisé un long-métrage, Au secours, j'ai 30 ans. Même chose, même question. Le long-métrage, c'était en 2004. Comme Patrick, il y a un parallèle assez intéressant entre vous deux. Vous n'avez pas envie de...
Si, moi, c'est quelque chose qui me plairait beaucoup. Contrairement à Patrick, le scénario que j'avais écrit n'a pas pu être monté. Donc, il a été fait à la télévision par Bruno Chiche. Et puis, comme Patrick, mais il a tellement bien parlé que je ne peux plus rien dire après.
C'est vrai qu'il y a
des moments de sa vie où...
Écouter l'émission.
Je prends des notes.
Il y a des moments de sa vie où c'est vrai quand vous avez la chance d'avoir des propositions de rôle, par exemple, que j'avais jamais eu, de jouer des textes classiques que j'avais pas eu l'habitude de jouer, toutes sortes de choses. Je suis partie dans cette voie de l'actrice. C'est vrai que c'est confortable et qu'on est heureux quand on aime jouer au cinéma, au théâtre. Mais j'avoue que franchement, j'avais adoré ce travail-là et je ne dis pas non.
Oui, parce que réaliser un film, c'est un temps infini dans une carrière.
Oui.
C'est quoi, 2-3 ans, se mettre en parenthèse et...
Non, quand même pas.
Oh, c'est 2 ans quand même, Patrick.
10-15 ans.
Toi, ça a pris 52 et moi, ça en a pris
un peu plus. Le problème, c'est que moi, pendant le montage, je jouais le soir, pendant le tournage, j'allais jouer. J'allais au Pérou tourner un film, je revenais en avion, enfin, c'était un truc de folie, quoi. Je ne peux pas m'empêcher de faire 12 trucs en même temps. Sinon, je flippe. Non pas à cause de l'absence de travail, ça je flippe pas, mais à cause d'angoisse métaphysique.
Mais vous arrivez à tout faire? Vous arrivez à retenir les textes au théâtre?
Non,
à être
non pas du tout.
Qu'est-ce que vous faites là en ce moment en plus de la pièce alors?
Là en ce moment, j'ai commencé un film à la fin du mois.
D'accord.
Un film de Jean-François Richet, Vincent Cassel et Lucchini. Oui, qui va m'embarquer sur un... Enfin, j'ai tout bien calibré.
Ah bah tu fais bien de me prévenir.
Oui, pourquoi? Je serai là à l'heure. Hein.
C'est dans la journée, le soir, il travaille.
C'est fou. C'est comme les maîtresses et les femmes.
Jour, nuit.
Au théâtre de la Vichaudière, Marianne Chazelle et Patrick Chesnais sont nos invités. Nous allons accueillir une star du rock progressif qui sort son nouvel album. C'est la première fois qu'il va jouer ses titres en public et en live. Hold on to the minute you see, Le rock progressif, c'est le rock des Pink Floyd, de Led Zeppelin, de David Bowie, c'est-à-dire ce sont des morceaux dans lesquels il peut, il n'y a pas forcément couplet, refrain, point, mais il y a des breaks, mais il y a différentes tonalités, il y a du relief, il y a des solos de guitare. Je sais pas vous, mais enfin moi ça fait des siècles qu'on a pu écouter un nouvel album avec des solos de guitare. C'est ce qui se passe sur le nouvel album de Steven
Wilson. Ça s'écoute pieds nus comme
Wilson,
musique.
Ça s'écoute et ça s'apprécie. Lui, il chante pieds nus en tout cas.
Et le rock progressiste, c'est le rock de gauche.
C'est le Steven Wilson To The Bone, c'est l'album et en live il est là avec Pareja, seul guitare et computer.
Tired of weakness, tired of my feet of clay. I'm tired of days to come. I'm tired of yesterday. And all the worn out things that I ever said. Now it's much too late. The words stay in my head. So the day will begin again. Take comfort from me. It's up to you now. You're still here and you're digging again. That's comfort to you. It's up to you now. So pariah, you'll begin again. Take comfort from me. And I will take comfort from you. Facebook, tired of my failing health. I'm tired of everyone, and that includes myself. Well, being alone now, it doesn't bother me. But not knowing if you are, well, that's been hell, you see. So the day will begin again. Take comfort from me. It's up to you now. You're still here and you're digging again. That's comfort to you. It's up to you now. So pariah, you'll begin again. Take comfort from me. It will take time. Don't you worry, don't worry about a thing. 'Cause nothing really dies, nothing really ends.
Well.
Alors, tu connais Montréal un petit peu?
Ouais, moi je vois plus du David Bowie aussi, Steven Wilson qui va venir nous rejoindre. Thanks a lot, Steven, for being our guest. Do you speak a little French or
not enough to have a conversation? Sorry.
Bon, pas assez. Mais, same for me in English. Donc il dit qu'il ne parle pas suffisamment bien le français pour avoir une conversation. Je lui dis que c'est le même problème pour nous avec l'anglais.
C'est vrai.
Mais on va quand même essayer de se débrouiller. Alors il est extrêmement prolifique, c'est-à-dire que il y a eu. I can't figure out how many albums you've done in your life with your several bands or even solo. On n'arrive pas à se rendre compte du nombre d'albums qu'il a pu faire. Il a eu trois projets. You've got three projects. No Man, Man, Porcupine Tree and Blackfield. Ça, c'est trois projets qu'il y a eu en solo. 20, 25 albums with those bands?
I think more. I think like 50 records.
À peu près 50 albums avec ces trois groupes.
Mais il a 15 ans.
Plus lui, ses albums solo. And this is your sixth album, solo album?
Fifth solo record.
C'est son cinquième. Oh, there was a double one, c'est ça.
Yeah, exactly.
Il y avait un double album, mais c'est son cinquième album studio, et c'est un événement. This album is an event because first of all, it's a good album, very good album, brilliant album. C'est un album absolument passionnant parce que c'est un album, ce que j'expliquais à Marianne et à Patrick et vous aussi. Il s'appelle To the Bone. Donc c'est un album sur lequel il y a une chanson éponyme qui ouvre l'album. To the Bone. Qu'est-ce qu'il y a? Un truc qui te plaît pas dans To the Bone?
Non, pas du tout, j'ai cru que c'était Pink Floyd, mais pas.
Ouais, il y a l'esprit Pink Floyd. Hein? Mais c'est pas. He says it sounds like Pink Floyd. Maybe we can talk about your guitar player. Mm-hmm. Peut-être qu'on va parler de son guitariste.
My guitar player is me.
Yeah, okay. Yeah, you got the guess. Good.
On that track, that's me, yeah.
Okay, on this one. Okay.
I mean, I grew up in a house, you know, where my father was massively into what I call conceptual rock music. So I would hear things like Dark Side of the Moon, I would hear Tubular Bells, but at the same time my mother would listen to stuff like ABBA and Carpenters.
Or Donna Summer.
Like
Donna Summer. Donna Summer, yeah. Oh, and I love it all. I love it all.
Il a grandi en écoutant les albums que pouvait écouter son père. Alors moi je disais rock progressif, c'est vrai que c'est des albums conceptuels comme ça peut être le cas de Tubular Bells ou encore de Dark Side of the Moon des Pink Floyd. C'est-à-dire que c'est vrai, rappelons-nous de ces albums sur lesquels il y avait peut-être que 4 titres mais qui faisaient chacun 12 ou 15 minutes avec des évolutions et des révolutions qui partaient dans tous les sens. Et puis voilà, comme The Wall aussi, et lui était partagé entre la culture musicale de son père avec ce genre d'album conceptuel ou ce qu'écoutait sa maman, c'est-à-dire Donna Summer ou ABBA, des choses beaucoup
et
plus
musclées aussi,
des choses beaucoup plus populaires. But your guitar player is touring now with Roger Waters, no?
Yes, I've lost.
Son guitariste joue avec Roger Waters. Yeah. Donc.
Mm-hmm. On my previous record, yeah. Voilà, this album is mostly me on guitar, yeah.
Ah, tu m'as mis deux fois le solo, c'est très pratique. Delphine, j'ai deux fois le solo, donc une fois, j'aimerais bien avoir le refrain à un moment donné de cette chanson.
C'est bien, c'est qu'on connaît la personne maltraitée dans le
stade. Voilà, Delphine, j'ai le solo.
Qu'est-ce qu'elle
j'ai
va prendre
Donc à aucun moment donné, j'ai le refrain. Si, là, j'en ai un autre, par exemple. People Who Eat Darkness.
C'est bien.
Oh, ça nous plaît, ça.
Non, hein, j'aime beaucoup.
Ça nous plaît beaucoup.
Ah ouais. Ben, on revient aux fondamentaux.
Exactement. Back to the roots. This is music. How can you explain that you are doing this record and it sounds like something coming from March? I mean, this is weird. There is solo guitar. There is tracks like 6 or 7 minutes length. Mm. Why? Pourquoi ça surprend tout le monde qu'il y ait des solos et que les morceaux durent 6 à 7 minutes?
Well, I mean, going back to, you know, what I was talking about, when I was growing up, there was this thing which was the album could be like a musical journey.
Voilà, and donc quand lui, il a grandi avec des albums qui étaient de véritables voyages musicaux.
And I miss that. And I think there are people out there that still want that, like yourself.
Ah, that's true. That's everybody on the table. Yeah, yeah, tout le monde. Ça nous manque, c'est vrai.
So my records are kind of trying to find this audience that is still out there, presumably, that still love the idea of the album as a, you know, analogous with a piece of cinema or a novel, something where you take the listener on a journey.
Voilà, donc lui, il veut faire plaisir à ce public, comme peut l'être un film, comme peut l'être un roman aussi. C'est-à-dire raconter une histoire, et un album peut aussi raconter une histoire. So let's talk about the To the Bone. If we have to translate, there is a sentence: go to the bone in English.
To the core, to the very heart of the issue.
Yeah, donc c'est aller à l'essentiel, aller au cœur. Yeah. On pourrait dire nous la substantifique moelle en français. So what is the essential
right
for you?
Right to the bone.
Yeah.
Firstly, it's the most direct and melodic album I've ever made in my career. So there's a sense of it going to the very core of my songwriting.
Donc il va à l'essentiel de sa manière d'écrire, et donc c'est celui qui est le plus mélodieux de tous les albums qu'il ait pu faire.
And then the second reason for me is because we live in this sort of era of fake news, the post-truth era.
Donc on vit dans à l'ère de la de ouais, la fake news.
Fake news.
Je ne sais même pas la traduction.
Ah mais j'ai compris moi.
Ouais, c'est truc. Ça.
Ouais. Yeah.
C'est
ça. It's a plea.
Un faux bidon.
Ouais.
It's a kind of plea to say, can we get to the can we find the truth here? Donc, does the truth even exist?
Donc maintenant c'est une supplique en disant, est-ce que maintenant on peut aller vers la vérité? Et ne pas s'arrêter simplement aux infos bidons. So, do you think Donald Trump will listen to your track? Est-ce qu'il pense que Donald Trump va écouter ses chansons?
It's amazing, you know. Joking aside, it's amazing how much Donald Trump has inspired musicians.
Alors, blague à part, vous pouvez pas savoir à quel point Donald Trump a pu être une inspiration.
If there's anything good about Donald Trump,
s'il y avait un truc bon à retenir, c'est ça, c'est qu'il inspire. Can we talk about this track, People Who Eat Darkness, which was the title of a book, c'était le titre d'un livre. You were inspired by this novel.
I was actually inspired. Coincidentally, I was inspired by the Bataclan attack. I wrote the song as a response to that.
And donc, il a écrit cette chanson après les attentats du Bataclan à Paris.
And really, it's the idea of, you know, whenever you see the news after an attack like that, they always kind of interview the people that lived next door, the people that lived opposite.
Après ce genre d'attaque, il y a toujours les témoignages des voisins dans la rue ou ceux qui habitent à côté.
So it's the idea, you know, that they interview these people and they always say the same thing, which is they seem so lovely, they seem so quiet, they would help me in with my shopping, you know. So this idea that people that appear to be on the surface normal citizens but are full of this darkness, full of this hate.
Donc you mean the people that have done the attack?
Yeah.
Voilà. Donc il dit quand on a les témoignages après de ceux qui disent mais le terroriste c'était quelqu'un de très tranquille, il vivait à côté,
il faisait bonjour,
il aidait à porter les courses.
Et donc il se rend compte qu'il y a toute cette monstruosité et cette obscurité, cet obscurantisme qui sommeille au fond de ces personnes et qui finissent par tuer et massacrer des gens. Alors, there is a lot of songs, dark songs, with a positive music. Les paroles sont très sombres, mais la musique, elle, est très positive.
Yeah, I've always found that nostalgia and melancholic music has been the stuff that has made me the happiest. You know, I'm talking about as a fan of music. Now, happy music kind of makes me depressed. So I've found with
donc
a few
la musique joyeuse peut le rendre dépressif. Il y a
except
quelques exceptions.
Except Abba.
Abba.
Although Abba have a lot of melancholy in their music too.
Oui, aussi, il y a beaucoup de mélancolie, you know. Ouais, c'est vrai.
So I've always found that these kind of emotions are very uplifting, partly because I think they make us understand when we hear sad music or nostalgic music or melancholic music, we understand that we have a shared human experience and we all feel these things and that makes us feel good. It makes
voilà,
me feel
quand on écoute des chansons mélancoliques, on se rend compte que l'on peut partager ces moments de tristesse, de mélancolie et ça nous rend un peu plus humains finalement et on partage cette musique. Est-ce qu'on a To The Bone? On a le refrain de To The Bone, j'adore. Sur l'album, il y a également donc Permanating.
C'est bien ça.
J'adore. Il le fera tout à l'heure. You're gonna play this song live in this studio for the first time ever in your life.
I'm gonna try.
Wow, il va essayer. Sur l'album, il y a également Paria. I'm tired of Facebook, tired of my failing health. Qu'il vient de faire. I'm tired of everyone. Et puis il y a un titre avec. Là, ce titre-là, c'est avec Ninette Taïeb. J'aime bien l'expression de voyage qu'il employait tout à l'heure. I love when you say journey. That's it. C'est vraiment ça, on a un voyage. Et puis il y a aussi un duo avec. Une présence avec Sophie Hunger. I gave up all the gambling. I gave up picking fights. I gave up saying sorry. I gave up being polite. et dans les reliefs, par exemple. There is three dimensions in your tracks. Donc, tout à l'heure, je vous ai parlé de cette chanson People Who Eat Darkness, les gens qui broient du noir, en fait, et qui ont mangé tout leur obscurantisme et qui attaquent les autres. C'était un peu violent au début. Comme ça, en plein milieu du morceau, arrive. Là, on est dans le David Bowie. Là.
J'adore. Totalement incohérent cet album.
Love.
Tu respectes rien.
Et puis. Et ça va pas l'énerver au bout d'un moment, vous lui parlez que de David Bowie.
Et puis, non. That's okay. You don't mind. He's saying.
I'm hearing David Bowie a lot. I don't understand. Yeah.
You are not.
It's a compliment.
For okay. Sure. That's really compliment. Oh, yeah. C'est un compliment. Et puis.
On va vérifier.
Et le morceau reprend avec un solo de guitare.
Comme David Bowie, c'est.
Non, mais. I'm sure Aladdin Sane are one of your best albums ever.
This one?
Aladdin Sane. No,
Aladdin Sane.
Yeah.
I think the whole thing with Bowie is that there's that whole 70s period where he just kept reinventing himself time and time again. And that's, for me, that's one of the biggest inspirations of all to an artist that continues to move forward.
Like you've done with so
I
many.
Like to think.
Oh,
I like to
you
think,
are
yeah.
definitely,
yeah.
definitely. You are one of the best. Thank you very much for being our guest. L'album s'appelle To the Bone. Il reviendra tout à l'heure. Et pour une reprise de Prince, Sign of Time, et pour Permanenting, il est en tournée le 4 février. Il sera à Marseille le 9 février 2018. Hein, il sera à Villeurbanne le 12 mars à l'Olympia de Paris, le 13 mars à Lille, le 6 février à Liverpool. C'est d'accord. Une faute de frappe. Décidément, c'est la journée. Hein. et il reviendra tout à l'heure. Steven Wilson dans la bande. Et voici l'humeur de Thomas Wiesel.
Merci.
Ça va, Thomas?
Ça va bien. Écoute, Nagui, ce week-end, je regardais le JT et ça parlait d'un grand discours d'Emmanuel Macron et du plus gros ouragan de tous les temps. Vous avez vu les images, ça en fait du vent. Mais assez parlé du discours de Macron. Vous avez vu la puissance de l'ouragan Irma aux Caraïbes. C'est l'ouragan le plus dévastateur de l'histoire après la chanson de Stéphanie de Monaco. Blague à part, moi j'aimerais transmettre toutes mes pensées aux familles des victimes, tous ceux qui sont sinistrés, mais aussi ma sympathie à toutes les Irma qui ont déjà enduré des décennies de blagues sur les voyantes et qui maintenant se retrouvent avec un ouragan meurtrier sur le dos. Parce que moi quand je dis Harvey, Irma et José ont causé des dégâts, j'ai pas l'impression de parler de catastrophe météorologique, mais plutôt de décrire la dernière partouze à la cafette de France Inter. Oui, parce que maintenant on donne des prénoms aux ouragans. Voilà, c'est choisi par l'Organisation Météorologique Mondiale. T'as pas intérêt à sortir avec quelqu'un qui bosse là-bas et le larguer, hein, parce que elle dira rien pendant des années et tout à coup, paf, t'allumes la télé et l'ouragan Thomas est responsable de la mort de centaines de personnes. Ça fait une belle vengeance. C'est pour ça que c'est un gros avantage d'avoir un prénom qui n'existe pas, comme toi, Nagui. Parce que, non, l'ouragan Nagui, ça n'arrivera jamais, je veux dire. Ou alors, si ça arrive, on saura directement que t'as filé l'herpès à une fonctionnaire de l'Organisation Météorologique. Et en plus, il y a des
feux. Si tu avais des amis arabes, tu apprendrais que c'est un prénom arabe.
Oui, mais tu m'as expliqué que c'était une contraction de deux prénoms et que ça existait
Naguib.
Pas vraiment.
Naguib.
Voilà. Donc c'est toi qui me l'as dit. Mais vous avez vu aussi qu'il y a des feux de forêt gigantesques au Canada, des coulées de boue meurtrières en Afrique de l'Ouest, une mousson historique en Asie du Sud, un tremblement de terre au Mexique. Est-ce que la planète peut se calmer deux secondes là? Parce qu'au rythme où ça va, Kim Jong-un va être dégoûté. Il pourra pas détruire la planète. Elle est déjà en train de le faire toute seule. Enfin, toute seule. On l'a bien aidé quand même. Les spécialistes s'accordent pour dire que la hausse de température accentue l'intensité des phénomènes. Al Gore vient de sortir son deuxième film sur le réchauffement climatique. Une vérité qui dérange deux. Visiblement, elle a pas assez dérangé la première fois. Il va sortir la vérité si je mens qui dérange trois. Qu'est-ce qu'on attend pour se réveiller, quoi? Qu'il y en ait autant que de Star Wars. Une vérité qui dérange 12, la revanche de l'anticyclone des Açores. Non, ben, ça va pas aller en s'améliorant. Hein. Nicolas Hulot, il a déclaré le pire est devant nous. Et il disait pas ça uniquement parce qu'il était derrière Manuel Valls à ce moment-là. Non, Hulot, il est censé montrer l'exemple en matière d'écologie, mais il a avoué qu'il avait voté Benoît Hamon, donc il a quand même gaspillé un bout de papier. Moi, je trouve incroyable qu'il y ait encore des climato-sceptiques, comme Donald Trump qui avait déclaré il y a quelques années que le réchauffement climatique, c'est une intox des Chinois pour nuire à l'économie américaine. puis la Irma, c'est quoi? C'est un milliard de Chinois debout sur la plage en train de souffler en direction des États-Unis. Le type, il a la peau orange, mais il croit pas au réchauffement climatique. Quoi. Arrêtez. Mais c'est vraiment plus simple de se dire que c'est pas de notre faute, comme ça on a rien à changer, on sort pas de notre petit confort, on peut tous faire des efforts. Bon, je sais pas si je suis le mieux placé pour vous faire la morale, moi je fais 7 heures de TGV depuis la Suisse pour venir faire un papier de 3 minutes, mon bilan carbone n'est pas incroyable. Puis autour de cette table, c'est pas beaucoup mieux, on a Albert Algou qui postillonne tellement que le niveau de la mer augmente de 2 cm à chaque chronique.
C'est vrai.
Tout à l'heure, il a fait l'orthophoniste pendant 3 minutes, on a perdu la moitié du Mont-Saint-Michel. Et Nagui, faut que tu fasses gaffe, si toi tu retires une fois ton salaire en petite coupure, on est obligé d'abattre 8000 arbres en Amazonie et de chasser une tribu indigène de leur habitat naturel.
C'est vrai.
Et fais pas rendez-vous en terre inconnue, tu vas faire péter la gueule. Et il y a que Daniel Morin que je tiens à féliciter. Lui, c'est exemplaire ce qu'il fait pour la planète depuis 10 ans. Il recycle les mêmes blagues sur cette tempête. Ça mérite la Légion d'honneur, ça.
Je suis responsable.
Voilà, exactement. Non, mais tout fout le camp. Avant, la météo, c'était le sujet pour pas avoir à parler de trucs qui fâchent. Maintenant, c'est tellement anxiogène que si une vieille dame me parle du temps qu'il fait, je vais la supplier de parler politique.
Merci, Non, Thomas, c'est super, j'aime beaucoup l'autodérision et tout et tout. Mais on a tous reçu, sauf Leïla Kadourmoudi, il n'y a pas une vanne.
Rien juste. Moi, c'est une fée.
C'est parce que je suis à portée de claque.
Et que j'ai une bonne droite, c'est bien connu.
Et en plus, une claque, ça réchauffe l'atmosphère, ça c'est irresponsable.
Le célèbre courage suisse. Quoi.
Exactement.
Nous allons continuer, bien sûr, de parler avec Marianne Chazelle et Patrick Chesnay de cette pièce au Théâtre de la Michaudière, Tant qu'il y a de l'amour. Mais petit retour quand même sur la musique de Stephen Wilson.
Ça fait penser à quelqu'un comme style, non?
Et il va nous offrir, il y a même aussi un peu de Tears for Fears et de Talk Talk dans tout ça. Mais c'est surtout du Stephen Wilson, on va arrêter, c'est vrai, de le qualifier des autres. Il a son talent, il a sa qualité. Et là, il nous offre une reprise. C'est « Is it the first time you did this song on radio ?»
Just for you.
Ouais, c'est juste pour nous, c'est un cadeau. Sprint, Sign of Time par Stephen Wilson dans la bande originale.
Skinny man died of a big disease with a little name. By chance his girlfriend came across a needle and soon she did the same. At home there are 17-year-old boys and their idea of fun is being in a gang called the Disciples, high on crack and toting a machine gun. Hurricane and it ripped the ceiling off a church and killed everyone inside. You turn on the telly and every other story's telling you somebody died. Sister killed a baby 'cause she couldn't afford to feed it, yet we're sending people to the moon. September, my cousin tried reefer for the very first time. Now he's doing horse, it's June. Sailing now, when a rugged ship explodes and everybody still wants to fly. Some say man ain't happy truly until he truly dies. Oh, I die. Baby, make a speech, Star Wars fly, neighbors just shine it on. But if the night falls and a bomb falls, will anybody see the dawn? Times. Silly no, when a rugged ship explodes and everybody still wants to fly. Some say man ain't happy truly until he truly dies. Oh, why times?
sign of the time. Mess with your mind, hurry before it's too late. Let's fall in love, get married, have a baby. Call him Nate, if it's a boy.
Steven Wilson, avec cette reprise de Prince. Et on peut retrouver d'ailleurs l'explication du choix de cette reprise de Prince sur son album, parce qu'il y a un titre qui s'approche un tout petit peu dans les racines musicales. I gave up all the gambling, I gave up picking fights, I gave up saying sorry, I gave up being polite. Song of I. Et sur l'album, il y a également une chanson qu'il adresse à un enfant qui n'est pas encore né en lui disant tu regardes notre planète et tu as l'impression que c'est une catastrophe, qu'il n'y a aucune raison de venir sur cette planète, ça va être monstrueux. Mmh. Et il dit au contraire, viens, on a besoin de personnes comme toi qui réalisent leurs rêves et qui changent le monde. It's not the way you are. It's about the things you love and the love that you It's not what y'all can see. Et on peut pas écouter ça et ne pas partir, ne pas voyager, ne pas planer. Il y a toutes les énergies possibles et imaginables sur cet album. Steven Wilson, il sera là tout à l'heure pour nous présenter le single extrait de cet album Permanating, ça veut dire permanent en anglais. Mais d'abord, voici la bande originale de nos invités, Marianne Chazelle et Patrick Chenet, hein, vous, ouais, c'est ça, hein,
parce qu'on... Ou
Louis Mariano, ça dépend.
Ah, ouais. Dodo. On va commencer dans les
années... Louis Mariano, Dodo.
Dans les années...
On veut pas savoir.
Dans les années 60, Patrick Chenet, écoutez. This is the end. Beautiful friend. Voilà, ça aussi.
Là, je vous envie d'avoir vécu cette époque.
Ouais. Ah ouais.
Mais ouais.
David Bowie.
Les Doors, ah, avec bon. The End. Quand vous réécoutez cette musique, vous êtes où? Dans une chambre d'étudiant.
Je suis à la Garenne-Colombe, dans la maison que j'habitais, où un copain est venu un soir en me disant « Écoute ça ». Je regarde, je vois The Doors. Ah bon? Vas-y, écoute. J'ai écouté 24 heures de suite, sans dormir, peut-être en allant pisser de temps en temps et de justesse.
Mais c'est depuis que vous ne dormez plus, alors vous ne dormez jamais.
Et voilà, les Doors restera pour moi le plus grand groupe de rock de tous les temps.
Et dans ces années, Patrick Chenet, vous décrochez le premier prix de comédien du Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique de Paris. Je me demande quel genre d'élève vous étiez.
Alors oui, c'est une bonne question, parce que j'ai essayé d'être un bon élève, j'y arrivais pas, mais j'ai essayé de faire plaisir à mes professeurs et d'être dans le moule. Et je me rappelle, après mon concours de sortie, il y a eu un article de Paul Delpech dans Le Monde qui disait Patrick Chenet, il faudra la grande carrière qu'il mérite s'il continue à se rebeller contre les directives qu'on lui donne au conservatoire. Et c'est là où j'ai compris que j'avais une espèce de subversion, ouais, sans le savoir, ouais, alors que je voulais être dans le moule. Ouais, ouais, dans les clous.
Et ça se matérialisait comment, ce petit côté subversif?
Ah bah c'est malgré moi.
Oui, mais justement. C'est-à-dire
C'est-à-dire que j'en sais rien, je ne peux pas répondre
ça
à cette
question. Ça vous échappait, ouais.
Simplement, on me taxait de rebelle, de subversif, révolté, etc. Sauf que j'étais le contraire, j'essayais de complètement... C'était malgré moi.
Anarchiste sans le vouloir.
Exactement.
fin des années 60, Marianne Chazelle, écoutez. J'aime les filles de ces castels. J'aime les filles de ces régimes. J'aime les filles qu'on voit dans elles. J'aime les filles. Ça vous faisait craquer la nonchalance de Dutronc comme ça?
La nonchalance, les yeux, l'humour, la dérision qui était tellement rafraîchissant. Oui, j'étais très sensible à son charme, à cette voix très, très haute comme ça. C'était assez anti-musique de l'époque, hein. C'était la variétoche française. Il y avait un regard un petit peu méprisant pour tous ceux qui adoraient les Beatles, tous les autres groupes, les Doors, voilà.
Ouais, lui, il était très british, enfin, dans sa dégaine. Ouais.
Puis le fait qu'il fasse une carrière aussi de cinéma, enfin, c'était un personnage.
Oui, ça, vous le saviez pas encore à l'époque.
Non, mais il avait une photogénie et il avait un style, hein. Il y avait quelque chose. C'était des textes originaux qu'il chantait, c'était.
Jacques Lanzmann.
Et à cette époque.
Formidable, Jacques Lanzmann, il faut le saluer au passage.
Et à cette époque, vous croisez Thierry Lhermitte, Gérard Jugnot, Michel Blanc, Christian Clavier autour d'un atelier théâtral. Lequel vous faisait craquer à l'époque?
Ben, tous, s'ils avaient voulu.
Dites-le. Mais...
mais il y en a un qui m'a fait plus craquer que les autres, c'est sûr. Que vous connaissez.
Et oui. Et alors, ce que vous racontez qui est intéressant, c'est que vous veniez d'un univers plus austère, j'ai envie de dire, et qu'avec eux, vous découvrez une forme de fantaisie.
Tout à fait. Moi, je viens d'une famille chrétienne, protestante. Mon père, mon grand-père est pasteur protestant, donc avec une éducation assez stricte. Et je vais découvrir avec ces quatre garçons qui sont au lycée, oui, deux garçons et moi, je suis au cours de filles en face, une liberté, une possibilité de rire de tout, de s'amuser, de rien ne prendre au sérieux, alors que chez moi, c'était la tragédie permanente. Et ça m'a fait un bien fou, et vous voyez, ça m'a jamais quitté.
En 2009, Patrick Chesnay, vous écoutiez Nino Ferrer.
J'adore.
Le temps du grand temps. Et la vie sûrement. Plus d'un million d'années.
C'est étonnant que quelqu'un comme vous ait des goûts aussi élégants.
Service public.
Fallait que ça sorte. Hein.
Ça lui fait du bien.
Non, ça lui fait du bien. Moi qui suis tellement rebelle contre l'ordre établi. Non, simplement, c'est la chanson de mes enfants.
Le Sud.
Bon, ça, c'est une vieille chanson qui a 30 ans, au moins.
Ouais, mais on peut l'écouter en 2009.
Ah, bah, c'est une chanson magnifique. Ouais. Et en vacances, partout, tout le temps, ils chantaient le Sud, ma fille et mon fils. Chanter le Sud tous les deux en même temps, et voilà, c'est une chanson qui est restée, qui reste toujours, que j'écoute régulièrement, que je chante même, mais pas tout de suite.
Non. Enfin, pourquoi pas un petit brin.
N'oubliez pas les paroles. Ah ouais.
Et dans la fin de ces années 70, Patrick, vous obtenez votre premier grand rôle au cinéma dans Les Naufragés de l'île de la Tortue de Jacques Rosier avec Jacques Villeray
et Pierre Richard.
Ouais, c'est ça.
Pierre Barou.
Et tu te demandais quoi?
Non, je me disais que c'était peut-être pas exactement la même période, mais bon, voilà, je sais plus dans quelle année on était.
Là, on est en 2009. Hein,
ah si ouais, bah 2009, c'était... Ah,
tu vas aller vers là, tu vas un petit verre d'eau.
Non, moi, je suis restée collée.
C'est Molière. C'est
Jacques Villeray. Là, c'est les Molières. Ce que je voulais savoir, comment ça se passait avec Jacques Villeray sur Molière.
Jacques Villeray, c'était un type... Voilà. C'était un ami, hein, c'était un acteur formidable. Et puis alors, pour eux, je sais pas si... Parce que j'étais devenu copain avec Pierre Barou qui me chantait La bicyclette. Mmh. Ah, c'est pour ça que j'ai choisi aussi dans le...
Oui, mais on a sauté une année parce qu'on n'avait pas le temps.
Ouais, on n'a pas le temps. Eh bien, on va y revenir quand même.
Ça m'intéresse.
C'est ça, c'est le côté rebelle.
Il me chantait le jour de mon anniversaire, il m'a chanté La bicyclette sur la plage.
Merveilleux, Pierre Barou. Merveilleux personnage.
Ben voilà, écoute.
La bicyclette.
Tu l'auras eu qui la chante.
Non, en 2009, donc Patrick Chesnay reçoit le Molière pour Cochon d'Inde et Marianne Chazelle en 2009, écoutez Michael Jackson.
Il sait tout faire. Hein.
S'il n'y avait pas la moquette, je ferais le moonwalk.
Arrache pas la moquette.
Non, mais c'est normal qu'il soit autant payé, tant de talent mérite du salaire.
Normalement, oui.
Et là, ce qui est génial, c'est que vous incarnez, et là, je suis la bonne époque, dans une pièce, Goodbye Charlie, vous incarnez en fait un homme qui se réincarne en femme. Généralement, c'est le contraire.
Oui, puis c'est surtout pas une femme qui est un homme qui se réincarne en femme. Donc c'était un challenge extrêmement drôle à jouer, parce qu'il fallait d'abord que je trouve l'homme que j'étais pas, qui va devenir une femme que je suis pas. Donc voilà.
Et l'homme que vous étiez pas, c'est qui ?
Non, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps parce que je veux absolument que Tanguy Pastureau, bienvenue. Tanguy,
bonjour.
Tanguy.
Salut Tanguy.
Ce qui va se passer à 12h10 puisque vous allez faire le résumé du week-end politique.
Et oui, avec Emmanuel Macron qui était en Grèce à la cool avec un petit verre d'ouzo à Maté Bribri en Vuitton. Il a une vie de rêve hein, parce que Marine Le Pen, elle était en Haute-Marne après sa dépression express de mois dernier en direct à la télé. Et Valérie Pécresse a lancé son mouvement à Argenteuil, hein, donc encore moins fun qu'un week-end en Pologne. On comprend pourquoi ils veulent tous être président.
Tanguy Pastureau tout à l'heure à 12h10, nos invités Marianne Chazelle, Patrick Chesnay et Steven Wilson à suivre.
Eh bien, moi, je dis que c'est l'heure et que c'est la deuxième partie de la bande originale.
Écoutez, dit comme ça, ça donne envie.
Hein,
Nous y allons donc, gaieté de cœur. L'information reviendra à 13h, évidemment, et Laetitia sera là. Ouais. Laetitia Gaillet de chez Laetitia Gaillet et Laetitia Gaillet pour vous informer toute l'après-midi. À tout à l'heure. Famille. La bande originale. Soyez les bienvenus avec les Lacadons.
Bonjour à tous.
Thomas Wiesel.
Bonjour.
Tanguy Pastureau.
Bonjour.
Daniel Morin.
Ah, bravo Daniel.
Albert Algout.
Bonjour.
Nos invités en live tout à l'heure, il y aura Steven Wilson. Et nos invités pour le théâtre, Marianne Chazelle et Patrick Chenet. Oh, dans une pièce qui est un délire total, signée par Bob Marter, mise en scène par Anne Bourgeois, avec Valérie Beg, Marianne Chazelle ici présente, et Laurent Gamelon et Patrick Chenet ici présents. Tous les quatre dans ce délire, avec l'impossibilité pour nous de résumer, à part dire qu'au début, vous êtes un couple, clairement ensemble depuis une vingtaine ou une trentaine d'années. Lui a organisé sa vie, Patrick Chenet a organisé sa vie avec sa maîtresse la journée, mais il aime bien rentrer le soir, avoir ses petites habitudes, sa petite popote. Et son tableau repas, son plateau. Son plateau repas, notamment pour le petit déjeuner le lendemain matin. Et elle l'attaque dès le matin, c'est ça aussi, hein, Marianne. Vous
ne lâchez rien. Elle commence à en avoir marre, hein, franchement, ça commence à bien faire.
Et lui, vous dites,
ans que ça dure.
Quand même pas le matin, si, si. Et vous lui mettez.
Elle essaye surtout qu'il accepte de se séparer d'elle pour pouvoir vivre sa vie avec son amant. Qu'il accepte parce que c'est lui qui a l'argent, c'est lui qui a la maison.
Il est odieux avec ça.
Il veut la garder pour lui.
C'est chez moi qui paye. Si t'es pas content, tu te casses.
Il a organisé sa vie de façon à ce qu'il trouve un certain équilibre. C'est ce qu'il dit. Donc, le certain équilibre, c'est sa maîtresse avec qui il vit une vie intime très
débridée.
Forte, très débridée. Et puis sa femme, avec
qui est chez lui, à la maison. Il a quand même quelques faiblesses.
Ben voilà, avec quelques pannes.
Ben oui, parce que brusquement, tout ça pèse sur sa libido au bout d'un moment. C'est un être humain.
Quel plaisir vous avez. D'abord, c'est la première fois que vous jouez ensemble au théâtre.
Tout à fait.
Incroyable.
C'était une vraie. Ça faisait partie
C'est une rencontre.
De la. Comment dit-on ?
Je ne sais pas,
de faire cette pièce, évidemment, c'est qu'on m'a dit que Patrick serait intéressé à la jouer aussi.
C'est Anne Bourgeois qui vous a réunis, en fait.
Voilà. Anne a beaucoup travaillé comme
votre point commun
avec lui. Ouais. Moi, j'ai déjà fait, c'est ma deuxième pièce. Et ça me tentait beaucoup de travailler avec Patrick, que j'admirais et que je ne connaissais pas bien.
Moi, ça fait... Bon, alors, on va se...
Il a essayé de me faire éjecter, mais il n'a pas pu.
Comme dans la pièce, exactement
une
ça.
Une rapide.
L'idée étant de demander au pharmacien Laurent Gamelon, qui est limite dépressif par moment aussi, qui est veuf, le pauvre, de tuer votre mari.
C'est-à-dire qu'il est très balèze, très costaud.
Lui qui est censé sauver la vie des autres.
Mais il est très lâche.
Mais non, mais très lâche, vous êtes marrante, vous. C'est
un pharmacien. Même s'il m'aime, il tue.
Mais non,
Je suis d'accord.
T'as raison.
Mais vous êtes odieux. Tout ça n'est que fiction.
Une âme de jeune fille dans un corps de camionneur.
et donc Valérie Beg est votre maîtresse, celle pour qui la différence d'âge n'a aucune importance, puisqu'elle veut même se marier avec vous.
Bah oui, je pense qu'elle a une espèce d'attirance suspecte pour moi. C'est comme ça, vous savez, il y a des jeunes filles, des jeunes femmes qui aiment les personnes d'un certain âge. Donc, je le représente, ici.
Ça s'appelle quoi, gérontophile ?
Non, pas encore, on n'est pas encore là, ça ne va pas tarder.
Après, c'est la nécrophile.
Elle a raison, dans la pièce, votre personnage a du mal à se lever,
Ça en rajoute une couche, mais normalement, quand on le voit dans un premier temps, on dit « Ah oui, quand même, Patrick Chenet, oui. »
Ah, on tombe à mon
et après, bon, j'en rajoute une couche pour...
J'ai eu du mal à vous asseoir tout à l'heure.
Pour essayer d'arracher quelques rires.
Patrick Chenet, Marianne Chazelle, Marianne, je voulais quand même vous faire le petit cadeau parce que vous nous aviez proposé ça. Je ne voulais pas que vous partiez sans entendre Barry White.
Quand même, une petite bouffée de sexe. Danse
et après,
de sexe.
Je vais chanter à bicyclette.
À bicyclette. Mais comme il est 12h10 ici, il est temps de retrouver Tanguy Pastureau qui m'apprête l'info.
Tanguy,
un week-end qui a été bien chargé en politique. Hein.
Oui, puisque les politiques ne sont pas comme nous à glander devant Téléfoot avec une main dans le calbut et l'autre sur la zapette. Le samedi, le dimanche, ils bossent. En fait, à faire ça, il n'y a que les politiques et Leïla, qui à 13h le dimanche est la seule en France à n'avoir ni blanc de poulet ni patate dans le gosier, puisqu'elle assure le JT, tandis que Laurent Delahousse commence à se coiffer pour son émission de 19h. Emmanuel Macron, le président sexy qui fait suer la gueuse, est ainsi revenu de Grèce, patrie de la fête à Salakis et de Nikos Eliagas. Pour les différencier à Eliagas, c'est celui qui râle quand on le mélange à de la roquette. Alors il a fait un discours devant le Parthénon. À Paris, il s'était exprimé devant le Louvre. Il pose devant le lieu le plus symbolique de chaque ville. S'il va à Saint-Trope, il fera une allocution devant le terrain de boules au moment où Patrice Laffont est en train de mettre une pile à Castaldi. Seulement, les Grecs ont dû lui faire siffler de l'ouzo, parce qu'il s'est lâché tel un bouc qui déciderait de venger 4 générations de chèvres en violant un légionnaire. Macron, au micro, a dit « Oui, je réformerai, hein, na, et je ne céderai rien aux cyniques et aux feignants. » Donc ça, c'est plus ou moins nous. Hein. Il faut dire que comparé à lui, le monde n'est qu'un tas de feignasses, puisqu'il a l'énergie de Pablo Escobar si en 88, il était tombé la tête la première dans son stock. Alors Macron, en Roumanie, avait déjà critiqué la France comme étant un pays figé. Là, en Grèce, il nous traite de feignants. Enfin, c'est le seul à avoir un syndrome de la Tourette qui ne se manifeste qu'à l'étranger. Hein, ici, il est gentil et doux, mais dès qu'il quitte le pays, c'est un monstre. Il craque sa chemise, a les poils qui poussent et il se met à hurler tout nu dans la lande sous la pleine lune. Hein, Macron, c'est le type qui, à l'Élysée, dit à sa femme « Chérie, je t'aime plus qu'hier et moins que demain. » Mais qui, s'il dorme dans un palace à 4 bornes au-delà de la frontière, se met à crier « Yes, Brigitte, bouge ton boule, ma grosse floute. Allez, viens voir papa. »
Bon, il n'y a pas que le président Macron qui s'est fait remarquer ce week-end.
Non, car samedi, c'était le retour de Marine Le Pen, ouais. Après 4 mois passés à débriefer sa prestation du débat du second tour avec le personnel de l'hôpital Sainte-Anne, qui lui a dit n'avoir jamais vu ça. Hein, souvenez-vous, c'était en mai, vos vies à tous n'étaient rien, puisque je n'avais pas encore intégré l'équipe.
Mais oui.
Et Marine Le Pen était arrivée en plateau en se disant « Macron, c'est un bleu, je vais l'aplatir comme une galette tipiaque. Et après, il me restera encore assez de jus pour enquiller sur mon cours de kung-fu. » Mais en face d'elle, l'autre est resté impassible. Il faut dire qu'il n'était pas à l'étranger. Hein, et que Brigitte avait dilué 3 Xanax dans son Benko. Donc à chaque fois que Le Pen lui disait « Vous êtes nul », lui répondait « Très bien, merci, bisous. » Hein, c'était Hannibal le cannibale qui rencontre John Lennon après qu'il a passé un an au pieu à fumer des bédos avec Yoko. Du coup, elle s'est énervée toute seule et est passée pour une démente. Hein, même dans Vol au-dessus d'un nid de coucou, les gens paraissent posés par rapport à elle. Samedi, elle a donc fait sa rentrée à Brachet, en Haute-Marne, où elle est apparue devant une banderole avec écrit « En avant pour un nouveau front », ce qui est aussi le slogan du docteur Martin Anui, hein, le spécialiste du lifting. Alors, bien sûr, elle ne se retire pas. Hein, le nouveau front, c'est elle. Elle était déjà le vieux front, hein, donc à 82 piges, après avoir raté son débat contre Théo, petit-fils de Benoît Hamon, elle dira encore « Allez-vous, c'est reparti !» Elle va avoir en politique le parcours que Charles Aznavour a eu en chanson. Enfin, Valérie Pécresse, la petite mère coinceuse de la droite molle, a lancé son mouvement intitulé « Soyons libres ». Hein, par miracle, l'espace naturiste du Bois de Vincennes n'avait pas déposé le nom. Ça y est, hein, elle est libre et elle n'a plus de limites. Alors hier, pour le lancement du truc à Argenteuil, elle a même sifflé un kirpèche, l'équivalent pour elle de 14 jours à Goa avec un chaman qui fume de l'opium la tête posée sur son ventre. Alors elle lance ce mouvement, mais n'est pas candidate à la présidence des Républicains. Hein. Donc c'est comme si Peter Pan offrait une lingette rince se doit au capitaine Crochet, ça ne sert à rien. Alors, non, l'idée en fait est juste de nuire à Laurent Wauquiez qui lui se présente, hein, rien de plus. Donc Macron, de l'étranger, lui aurait conseillé de crever ses pneus ou de lui voler sa teinture à cheveux, perfect color gris hibou. Mais Valérie Pécresse est bien trop polie pour ça.
Bravo.
Quel bon week-end.
Sur France Inter. Vous le retrouvez tous les jours à 12h10 dans la bande originale Tanguy Pastureau, la Michaudière, c'est depuis la semaine dernière, et ce jusqu'à plus soif, il n'y a pas de date finale, ça va jusqu'en juin.
Au 8 janvier.
Ah, forcément. Pourquoi? Parce que vous avez des obligations, tous les deux, qui vous appellent à faire d'autres choses, Marianne?
Je crois que Laurent Gamelon part en tournée.
D'accord.
Et moi, je pars en maison de repos.
C'est un beau programme.
Après cette pièce, j'en aurais bien besoin.
Et moi, j'ai un autre projet, je ne peux pas faire les deux.
D'accord. Donc, profitez-en vite si vous avez l'occasion de passer par la capitale. Vous êtes en province, venez applaudir tant qu'il y a de l'amour. Vous allez vraiment rire, vous divertir. Et puis, peut-être poser des toutes petites questions sur qu'est-ce qu'il faut faire dans son propre couple pour ne pas le perdre, puisque j'ai l'impression qu'il y a des petits moments, des petits retours de flamme aussi au sein de votre couple.
Et oui.
Chacun va voir ailleurs, mais...
La fin légitimement les moyens, si vous voulez... Je vais finir quand même par comprendre que ce bouc dont on parle tout à l'heure, cet obsédé qui est mon mari...
Cette boule de vis et pas cette boule de muscle,
voilà,
comme je disais tout à l'heure.
Cette boule de vis, pour le satisfaire et pour l'épuiser, parce qu'il a quand même gobé un produit particulièrement toxique.
Tellement drôle. Il est tellement drôle quand il suffoque et quand il meurt.
Ah ouais, ça, il le fait admirablement.
Quand je meurs, je suis toujours très drôle.
Oui, t'as pissé de rien.
Non, c'est extrêmement drôle. Et Laurent Gamelon est aussi... Enfin, tout le monde est à deux doigts de craquer. Finalement, celle qui est un peu le repère de la normalité dans tout ça,
c'est Valérie Beg.
Valérie, et encore... Si vous avez ce qui se passe en coulisses.
Non, ça va, je veux pas savoir. Valérie Beg, Marianne Chazelle, Laurent Gamelon, Patrick Chesnais, allez les applaudir. C'est au théâtre de la Michaudière. Il revient, Steven Wilson, avec son 5e album. Ah. cet album, il y a To The Bone, mais aussi Detonation. Ou encore People Who Eat Darkness. Tout à l'heure, il interprétait Paria. Sur cet album, il y a Permanating, le titre, le single de Steven Wilson. C'est en live pour la première fois à la radio dans la bande originale. C'est sur l'album To The Bone qu'on vous encourage à vous procurer, à télécharger légalement, à l'acheter en numérique ou à l'acheter en digital ou en vinyle, puisque la grande mode maintenant revient. Il faut acheter du vinyle pour avoir le bon son. Il est en tournée en 2018. Ça sera le 4 février 2018 à Marseille, le 6 février à Villeurbanne, le 12 mars à Paris à l'Olympia, le 13 mars à Lille et au mois d'octobre 2017, c'est-à-dire dans un mois, il sera Hasard qui fait bien les choses dans Taratata, parce que quand on aime, on aime. Thanks a lot, Wilson. Take care. On peut encore remercier. Première fois à la radio. Midi. La bande originale. Voici le rêve de Daniel Morin.
Oui.
Monsieur Morin.
Oui, ce week-end, mon sommeil fut très tourmenté.
Qu'est-ce qu'il y a encore ?
La cause, cette histoire de la députée de la Sarthe, Pascale Fontenelle-Person. Députée qui organisait des visites guidées payantes de l'Assemblée nationale. Dans mon rêve, décontracté, je me promenais en slip du côté du ministère des Finances. Et je ne sais pas pourquoi, je me fais interpeller. Bonjour monsieur, petite visite du ministère. Ah bah oui, pourquoi pas, c'est gratuit. Oh mon bon monsieur, plus rien n'est gratuit de nos jours. Non mais laissez-vous tenter, vous ne le regretterez pas, je vous l'assure. Comment ça ? Eh bien, pour un tarif aussi modeste que ridicule, faites-vous plaisir, je fais le grand tour de Bercy. Bureau du ministre, cantine, accès à tous les comptes fiscaux, découvrez combien déclarent vos voisins, combien déclarent vos amis, mais aussi les vedettes du showbiz. Oh ! Je peux voir la déclaration de Nagui. Oh, pour ça, il faudra aller directement au service contentieux. Et cette visite, ça coûte combien ? Mon cher monsieur, pour 149 euros, tout compris. Oui, vous avez bien entendu, pour 149 euros TTC, vous avez droit à un tour aussi complet que privilégié du ministère. C'est vrai que ça les vaut. Et pour 99 de plus, je vous offre mon livre, La fraude fiscale pour les nuls, plus le guide du routard spécial Panama, ainsi que la liste des meilleurs responsables de compte chez HSBC Genève. Je prends ! Je peux vous faire un chèque ? Bien sûr. À quel nom ? Cahuzac. Je me suis réveillé en sueur et en panique en train d'étrangler ma femme. Rassuré que ce retour de Cahuzac au pays du tout payant ne soit qu'un rêve, je me suis illico réendormi. Mais au bout de 12 secondes, paf ! Un autre rêve. C'était le père Albert. Non, mon père, non, pas vous. Ne me dites pas que vous organisez des visites tarifées des lieux de culte.
Mais si ! Une fois par mois, nous organisons des visites payantes du Vatican avec mon ami, Monseigneur Di Falco. Et on se gave ! On a une petite société, Vatican Tour. En latin, Vaticano Touro, on propose plaisir formule.
Mais quelle honte, c'est gratuit de visiter le Vatican.
Oui, mais là, c'est un service sur mesure, et pour toutes les bourses. Bienvenue, mes frères, bienvenue, mes sœurs, bienvenue chez Vatican Tour, le seul tour opérateur à vous proposer une visite avec un vrai évêque, le très très pieux Monseigneur Di Falco. Pour cette visite, vous avez le choix entre trois formules. La formule du pauvre, la formule Panini. Visite de la place Saint-Pierre en sandales, puis tour de la chapelle Sixtine à genoux. Le tour audio guidé par Monseigneur Di Falco en 20 minutes tout compris. C'est la formule à 29 euros. Deuxième option, la formule tiramisu à destination des CSP+. Ambiance très romaine avec tour de la place en Vespa, visite guidée par Di Falco en personne et photos souvenirs avec Monseigneur devant le tombeau de Saint-Pierre. Avant de partir, petit repas romain, les fameuses hosties à la bolognaise, régale. La formule tiramisu est à 79 euros TTC. Et enfin, pour les esthètes, troisième formule, la tutti frutti. C'est la formule VIP, réservée aux hommes. Comme on dit dans le vocabulaire technique comptable, cette formule coûte la peau des couilles, c'est vrai. Mais quel programme ! Arrivée en hélicoptère et visite de la place Saint-Pierre en papa mobile, conduite par Di Falco. Pyjama party dans les appartements des gardes suisses. Et pour finir, soirée mousse dans la crypte papale, avec aux platines DJ Prépuce. La formule tutti frutti, 13 953,50 euros, TTC.
Wow. Du coup, je me suis dit que finalement, c'était pas si con que ça. Alors hier, je suis venu à Radio France pour installer un petit guichet pour faire payer les gens pour une visite. Je suis arrivé trop tard, il y avait déjà quelqu'un qui facturait les entrées 49 euros avec visite de son bureau et apéro rillette entre 10h et 23h. Je donnerai pas de nom, mais quand même, il exagère Augustin.
Pas de nom, juste un prénom. Voilà. Les prénoms en l'occurrence, Valérie, Marianne, Laurent et Patrick, autrement dit Valérie Bègue, Marianne Chazelle, Laurent Gamelon et Patrick Chenet sont au théâtre de la Michaudière pour Tant qu'il y a de l'amour, avec une affaire aussi ambiance arsenic et vieille dentelle. C'était, enfin peut-être pas vieille dentelle, mais arsenic. Comment faire pour tuer son mari, puisque c'est la décision prise par l'épouse trompée, qui elle-même trompe aussi, mais qui veut vivre son amour avec son pharmacien. C'est un thème qui vous est cher, parce que j'ai l'impression que je suis même sûr, vous avez tourné aussi dans un film qui s'appelle Quand je serai grande, je te tuerai.
Oui, mais
c'est une obsession
là...
chez vous.
Non, là, oui, c'est vrai, mais là, j'ai rien à voir avec la tueuse. Je fais l'enquêteuse.
L'enquêteuse.
On dit l'enquêteuse, l'inspectrice.
Ah oui, on dit l'enquêteuse. Oui,
c'est sur... Albert, c'est sous ta direction. Hein. Je peux dire l'enquêteuse.
C'est sur TF1 avec Laetitia Millot et Antoine Duléry. Voilà.
Oui, c'est un polar noir. Ça et on m'a proposé. Je sais pas, il faut leur demander. À la rentrée, je crois.
Moi, j'ai pas vraiment aux entrées là-bas, mais j'attends un peu. Alors.
Mais c'est incessant, je pense que c'est incessant.
D'accord.
En novembre.
Et vous. Non, il dit n'importe quoi.
Il faut dire un truc.
Patrick Chenet, vous êtes dans l'adaptation française de The Fall, rebaptisée Dans l'ombre du tueur, là aussi sur TF1.
Oui, oui. Et puis aussi, sur, il y a un film qui s'appelle Moi et le Che, qui est un très beau film sur un compagnon de Che Guevara que je joue et qui se demande si un soir qu'il était beurré, c'est pas lui qui l'aurait balancé. Donc il fait le tour de Saint-Germain-des-Prés en se bourrant un peu la gueule, en faisant le monde, en ayant aussi quelques petites aventures. Voilà.
Et puis vous êtes dans le prochain film d'Anne
de
Petrigny.
Il chante, vous chantez
c'est très rock, des années 60-70. C'est un film de Patrice Gauthier qui je pense, très intéressant. C'est un truc, pareil, c'est très barré, ça part en vrille dans tous les sens. C'est...
Donc un film avec Marie-Lou Berry, Bérangère Krief et dirigé par Anne de Petrigny, là ça s'appelle J'enseigne.
Ouais.
Et un autre film, Vidocq, que vous tournez en ce moment.
Que je vais commencer à tourner, L'Empereur de Paris, ça s'appelle, oui.
Ah, ça s'appelle L'Empereur de Paris, ou Vidocq 2. L'Empereur de Paris.
Non, ça s'appelle L'Empereur de Paris.
Très bien. Et vous, quel... quel personnage.
J'adore.
2. Dans ta gueule. Ok, d'accord, je n'insiste pas. Je n'insiste pas. Des excuses à présenter également.
Bien sûr, déjà, désolé pour les amoureux, les lovers, les romantiques qui ont été légèrement souillés par notre défense de l'adultère, et du crime matrimonial. Eh les gars, c'est comme ça, c'est la vie, et puis ça arrange Nagui qu'on désamorce. Voilà. Enfin bref. Désolé pour Patrick Chenet qui était légèrement bouleversé par la maîtrise de la langue française de Nagui qui nous a sorti son impétrant. Pour tout vous dire, Patrick, nous aussi, on est resté sur le cul. Désolé pour David Bowie qui m'a appelé à la pause, il était furieux, il nous a demandé d'arrêter de le comparer avec Steven Wilson. C'est pas nous, David, c'est Nagui. Désolé, vieux.
J'ai pris cher aujourd'hui, punaise. J'ai pris cher. Allez applaudir. Tant qu'il y a de l'amour au théâtre de la Michaudière, vous ne le regretterez pas. Merci mille fois, Marianne Chazelle, Patrick Chenet, d'être venu à ce micro nous parler de cette pièce. Et puis surtout, merci de la jouer tous les soirs et de vous donner autant pour le public. C'est la première forme de respect pour son public. Mais voilà, vous ne lâchez rien. Et c'est extrêmement agréable d'y aller.
Le public est très content et nous le rend bien parce que c'est vraiment un échange de folie.
Non, c'est agréable, très agréable.
Les gens sont fous de joie à la fin. Ils sont debout, ils applaudissent. C'est toujours très agréable, quoi.
Ça donne envie d'y aller.
C'est pour ça que je le dis.
Non, puis ce qui est amusant, c'est qu'on sent qu'ils viennent parce qu'ils savent qu'ils vont s'amuser. Et ça, pour nous, c'est très chouette. On les sent tout de suite à l'écoute et ils partent tout de suite dans l'histoire qui est quand même totalement barrée.
C'est comme moi.
Non seulement il n'y a pas de déception, mais il y a même plus encore avec tout ce que vous donnez. Exactement. Oui. Demain, Céline Salette et Pierre Deladonchamp sont nos invités dans la bande originale. À bientôt. Portez-vous bien. Bonne journée sur Inter. Merci. Ce sont les carnets de campagne maintenant avec Philippe Bertrand.
Oui, bonjour Nagui, bonjour la bande.
Salut Philippe.
Tant qu'il y a de l'amour, les carnets, c'est tant qu'il y a du labour.
Oh, joli. Voilà. En scène maritime aujourd'hui, cette semaine, c'est ça?
Oh, Franck, quel talent.
On s'est croisés tout à l'heure.
Mais il ne fallait pas le dire.
Ah bon, ok, d'accord. Bon. Bonne émission.
À demain, les amis.
À demain.